C'est donc si passionnant l'histoire.
C'est la science par excellence qui nous enseigne le vrai gouvernement des hommes et du monde.
Avoir 20 ans pendant la révolution culturelle.
Nous, les jeunes, nous devons tirer la leçon du président mort. Il ne faut jamais oublier la lutte de classe.
Dans les années 1960, l'échec du grand bond en avant et la famine qui avait suivi, 30 ou 40 millions de morts tout de même, avait ébréché l'infaillibilité de Mao. En 1966, il reprend l'initiative assurée de la fidélité de l'armée commandée par Lin Biao. Quand, en juillet, malgré ses 72 ans, il nage longuement dans le Yangtze devant des dizaines de milliers de sujets ébaubis, il a plus que jamais récupéré le magistère de la parole. C'est lui qui, plus fort que les vents et les vagues, indique la direction. Il fait se lever une force tellurique, les jeunes gardes rouges. Peut-il y avoir un totalitarisme anarchique ? En tout cas, s'ensuit un vaste chaos. En 1967, changement de cap. Il faut la violence de l'armée pour rétablir un ordre. Les organisations de gardes rouges sont dissoutes, voire liquidées. Cette seconde phase fait davantage de victimes encore que la première. Les gardes rouges et après eux les jeunes gens instruits des villes, qui ont le malheur d'avoir 20 ans dans ces années, sont envoyés en rééducation dans les campagnes, chez les paysans pauvres qui n'en peuvent mais. 17 millions de personnes sont concernées, une génération perdue qui aujourd'hui parvenue à la soixantaine ne sait trop comment transmettre son expérience, car comme dit le quotidien du peuple à l'occasion du 50e anniversaire de la révolution culturelle, il faut, n'est-ce pas, laisser l'histoire à l'histoire.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Jean-Philippe Béja, bonjour.
Bonjour.
Grand historien des mouvements démocratiques, mais oui, ils sont là constamment depuis le début du XXe siècle. En Chine, vous avez d'ailleurs repéré beaucoup d'anciens gardes rouges parmi les démocrates des années 70.
Ah oui, tout à fait. La plupart d'entre eux avaient participé au mouvement avec un très grand enthousiasme et avaient, pour un certain nombre d'entre eux, commis des exactions, disons.
Dans les années précédentes.
On commençait à réfléchir là-dessus.
On parlera des gardes rouges dans la première phase. On parlera des jeunes instruits qui sont envoyés dans les campagnes aux quatre coins du pays. Je vous laisse dire le nom en chinois.
Les Jiuqing.
Alors, eux, s'est déplacé, beaucoup, essayaient de rejoindre la ville où vous avez longtemps vécu, Hong Kong. Le poème de l'un d'entre eux. Dans cette nuit d'encre, assis dans une barque, je rame en silence pour filer au loin.
Il avait de la chance parce qu'il avait une barque. Beaucoup ne l'avaient pas et ont fini dans les dents des requins dans la baie, dans Dyer's Bay.
Les jeunes instruits, ce sera la deuxième phase. Mais commençons par le commencement, par ce qui se passe dans les universités, à l'université de Pékin, où un Daisy Bao dénonce le recteur de l'université, ensuite d'autres mouvements, une sorte de chahut monstre se développe. Daisy Bao, d'ailleurs, il paraît que vos étudiants à Sciences Po ne savent pas très bien ce que c'est qu'un parti communiste.
Eh ben non, qu'est-ce que vous voulez, le mur est tombé depuis 1989.
Alors le Daisy Bao, c'est justement ce qu'on affiche sur les murs.
Voilà, le Daisy Bao, ça veut dire littéralement un journal en grand caractère, c'était effectivement les affiches qu'on écrivait et qu'on mettait, ce qu'on collait au mur.
Le président Mao est évidemment l'épicentre de luttes factionnelles perpétuelles à l'intérieur du Parti communiste chinois. Il a décidé d'utiliser les jeunes comme un levier.
Oui, ça lui a déjà... si vous voulez, le président Mao est assez doué pour appeler au secours les personnes qui n'ont pas eu véritablement d'expérience de son pouvoir. Alors, il avait d'abord commencé avec les ouvriers, puis les intellectuels, et puis alors maintenant, il se dit, il reste plus grand-chose, parce que les paysans, c'est quand même un peu difficile maintenant, après le grand bond en avant dont vous avez parlé. Là, dans ces conditions, il reste plus que la jeunesse. Et la jeunesse, qui est quand même assez mécontente du pouvoir communiste en place, c'est bien évident, se dit, voilà, non seulement, mais vous vous rendez compte, c'est le numéro un qui nous appelle à nous soulever contre ceux qui nous oppriment.
Et Lin Biao, son affidé dans le comité restreint de la révolution culturelle, dit, il faut lutter contre les vieilleries, les vieilles habitudes, la vieille culture, etc., etc. Et dans les universités, cela se traduit par un renversement cul par-dessus tête des hiérarchies traditionnelles. Alors, côte à côte ici, deux reportages, l'un de Jacqueline Dubois, c'était une journaliste qui travaillait pour la télévision française, à moins qu'elle n'ait travaillé constamment pour le pouvoir maoïste. Et ensuite, un autre témoignage. Tout ça, ce sont des témoignages a posteriori des gardes rouges qui se souviennent des premiers jours dans les universités.
Les rapports entre les professeurs et les étudiants, ça a beaucoup changé depuis la Révolution. Avant, les professeurs se comportaient avec une autorité absolue vis-à-vis de leurs élèves. Ils ne se rendaient pas compte que l'enseignement faisait partie intégrante de la Révolution et de l'édification socialiste. Et au cours de la Grande Révolution, ils ont été critiqués et ils ont étudié consciencieusement les œuvres du président Mao. Et maintenant, c'est avec un esprit tout nouveau qu'ils contribuent activement à la grande cause de la Révolution.
Je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai vu un groupe d'étudiants, des grands gaillards, dont certains étaient mes propres camarades de classe. Ils pratiquaient les arts martiaux. Ils ont bondi sur l'estrade pour frapper notre proviseur. À la fin, il n'avait plus rien d'un être humain. Son visage n'était qu'une masse noire. On ne savait pas où se trouvait son nez ou ses yeux. Lorsque j'ai vu cela, mon cœur s'est glacé.
Les professeurs, les proviseurs, parfois massacrés, très souvent humiliés, quelques-uns suicidés. Jean-Philippe Béja, la jeunesse, c'est une classe sociale, une catégorie, mais elle est traversée par la lutte des classes. Et dans la jeunesse, il y avait, avant la Révolution culturelle, les Noirs et les Rouges. Les Noirs, c'est les héritiers des classes privilégiées d'autrefois. Enfin, c'est ceux qui sont mauvais, quoi.
Voilà, c'est les mauvaises classes. Alors, c'est les propriétaires terriens, paysans riches, contre-révolutionnaires, mauvais éléments et droitiers. Les cinq catégories noires, qui pendant la Révolution culturelle vont se multiplier puisqu'on arrivera à la neuvième catégorie puante, ce sont les intellectuels. Alors d'un autre côté, il y a les rouges, alors ce sont les fils d'ouvriers, paysans pauvres, martyrs révolutionnaires et soldats révolutionnaires. Donc entre ces deux catégories, il y a des vies complètement différentes. C'est-à-dire que pour entrer à l'université, il fallait appartenir aux catégories rouges. Les catégories noires, il n'était pas question qu'elles y entrent. Vous étiez victime de toutes sortes de discriminations. Et puis, un peu plus tard, vers les années 69-70, vous pouvez aussi être exécuté.
Alors, donc, c'est peut-être de l'intérêt des Noirs que d'entrer chez les gardes rouges.
Alors voilà, au tout début de la Révolution culturelle, l'appel de Mao Tse-tung va être saisi par ces gens des catégories noires qui avaient été victimes, qui vont commencer par aller très simplement saccager les commissariats pour essayer de trouver leur dossier et de brûler leur dossier, de le récupérer. Donc ça, c'est dans le tout début de la Révolution culturelle, c'est-à-dire vers juin-juillet. Mais très rapidement, évidemment, le Parti communiste sait quand même bien, et Mao aussi, et le groupe de la Révolution culturelle aussi, que ces gens-là ne sont pas censés devenir les héros de la Révolution maoïste. Et très rapidement, ils seront réprimés. Et là, on fait appel aux catégories rouges qui sont celles qui vont justement aller casser les quatre anciens et qui vont faire toutes les
quatre vieilleries.
Voilà, les quatre vieilleries, toutes les exactions, etc. qui vont se passer. Vous savez, les images qu'on voit où on enlève les noms des rues, on change les noms des rues, mais on va aussi perquisitionner chez les intellectuels, chez les bourgeois. On casse, et puis un certain nombre d'entre eux, ils ne font pas que casser. Ils emportent aussi un petit peu chez eux ce qu'ils ont trouvé de très précieux. Il y avait notamment Crang Cheng, qui est l'un des dirigeants de la Révolution culturelle, qui était un grand collectionneur devant l'Éternel et qui a bien profité pour améliorer ses collections.
Mais on dit que la collection de livres anciens du président Mao s'est peut-être aussi enrichie à cette occasion. Mais on dit tellement de choses. Il n'y a pas un établissement d'enseignement qui n'ait connu d'atrocité. Mais Joris Ivens, c'est Marceline Loridan, les grands cinéastes révolutionnaires bien connus, qui plus tard, un peu plus tard, sont allés en Chine tourner un film de 12 heures, Comment Yukong déplace les montagnes, raconte ici un grand débat beaucoup plus paisible, consécutif à la Révolution culturelle et tout bêtement un incident dans une cour de récréation.
Camarades, nous tenons cette réunion pour aider Jia Yanmin. Il a continué à jouer au ballon après la cloche. Il a enfreint la discipline, vous savez, n'est-ce pas ? Il a joué après l'heure, et quand le professeur est intervenu, qu'a-t-il fait ? Il a continué à jouer. Nous avons donc demandé au professeur Tong de venir à cette réunion. Vous pouvez donner votre avis. Tous, ici, doivent parler franchement. Si votre camarade est dans son tort, dites-le-lui. Si c'est moi qui n'ai pas su y faire, vous pouvez me le dire.
foutu ballon à l'éducation nationale d'aujourd'hui. Il le présenterait comme un objet référentiel sphérique et exocentré, je cite, mais dans le climat de la révolution culturelle, il a l'avantage de permettre une double autocritique, celle de l'élève, celle du professeur.
En fait, mon coup de pied s'explique par deux facteurs. La passion du jeu est secondaire. Le facteur principal, c'est que l'autre jour, à l'étude, j'avais oublié mon gobelet. Le professeur Tong m'a critiqué. Je l'ai très mal pris. Quand le professeur Tong nous a interpellés, dans la cour, le ballon était devant moi. Me retenir, c'était perdre la face. Alors, la rancune aidant, j'ai shooté. Ce n'est que maintenant que je comprends que je n'aurais pas dû refuser leur critique juste. J'ai été vindicatif. Et j'ai eu tort. Quant à moi, mon subjectivisme et ma mauvaise humeur s'aggravent. Surtout, j'ai sous-estimé votre conscience politique. Cette attitude est contraire à l'enseignement du président Mao, qui nous invite à mener toute tâche scrupuleusement. Mon attitude répressive et mon irritabilité ont ainsi gâté les choses.
Sourire en coin, on peut tenter une approche psychologique, dire que c'est une transgression contre les règles du père, mais qu'il y a un surpère.
Voilà,
le président Mao qui est toujours cité en épilogue.
Disons que le surpère est toujours effectivement présent et c'est lui qui va, au fond, manipuler toute cette révolution culturelle en utilisant justement la haine des jeunes pour cette discipline atroce qui était imposée par le Parti communiste avant la révolution culturelle. Il faut comprendre aussi pourquoi il y a eu cette révolte simple, c'est-à-dire qu'il y avait d'un côté une espèce de chape de plomb qui était mise par le parti sur l'ensemble des écoles et des universités. On pouvait pas tellement discuter, il fallait obéir, c'était le confucianisme. Et puis alors on voit Mao qui appelle à se soulever. Mais évidemment, on va être encore bien plus fanatique et bien plus intolérant quand on cherchera à se faire passer pour les meilleurs soutiens de la pensée de Mao Tse-Tung et se battre pour ça, se tuer pour ça.
La maison de Confucius, d'ailleurs, sera saccagée. Elle aussi, le vieux sage, ne connaissait pas la pensée du président Mao, qui préside aussi à toutes les réjouissances. Tenez, toujours dans un reportage, ce sont des roches d'une émission de télévision qui, sans doute, n'a pas été dissimulée, de Jacqueline Dubois. Nous sommes maintenant avec une famille dans une salle de spectacle.
Quelquefois, nous allons tous au théâtre en famille. Les pièces sont toujours écrites pour les ouvriers et les paysans. Le port, par exemple, raconte la lutte des dockers révolutionnaires et l'esprit internationaliste des ouvriers chinois. C'est l'histoire d'un ancien capitaliste qui fait tout pour saboter le travail des dockers révolutionnaires à Shanghai.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avoir 20 ans à l'époque de la révolution culturelle en Chine, c'est entendre répéter tous les jours que la puissance de la pensée du président Mao est invincible. Je traduis ce qu'on vient d'entendre devant vous, Jean-Philippe Béja, grand spécialiste de la Chine. Les peintres à qui on a crevé les yeux, les pianistes à qui on a brisé les doigts en savent quelque chose. Des millions de gardes rouges défilent devant le président Mao et ensuite sont envoyés faire feu sur tous les quartiers généraux des pouvoirs.
Absolument. Et pour ça, on leur permet de voyager gratuitement dans tous les trains de Chine. Ce qui, pour des jeunes qui n'ont jamais quitté leur quartier de Pékin, ou leur quartier de Shanghai, ou le quartier de leur ville, va être une occasion absolument extraordinaire d'aller se promener. Alors bien sûr, d'abord, on va porter la bonne parole. Hein, les gardes rouges venus de Pékin, par exemple, sont attendus partout pour choisir ceux qui sont révolutionnaires et ceux qui ne le sont pas. Parce qu'il y a des factions dans tous les endroits où ils vont, dans toutes les universités, et il faut dire, ben voilà, le quartier général dit que c'est vous les révolutionnaires et les autres. Ils ont donc un pouvoir absolument très très important. Mais à côté de ça, il y a aussi ce à quoi peut-être Mao n'avait pas pensé, c'est que c'est la première fois qu'il y a de grandes vacances pour cette jeunesse. Et beaucoup de gens vous parlent aujourd'hui de ce grand chambardement, ce grand voyage, d'Achuanien, où on a pu enfin se promener avec des camarades des deux sexes. Et puis, ben, on se retrouvait dans des villages, on allait voir les lieux saints de la Révolution, en plus des universités. C'est-à-dire qu'on faisait d'un côté une action révolutionnaire, et puis de l'autre du tourisme, et puis on se rapprochait d'un certain nombre de camarades femmes, peut-être, ou de camarades
hommes. Mais ce que vous êtes en train de nous raconter, c'est un gigantesque carnaval, parce qu'on peut interpréter les humiliations qui sont imposées à la femme du président de la République, l'ancien président de la République, Liu Shaoqi, qu'on oblige à porter les robes et les talons et les bijoux qu'elle arborait pendant les visites officielles. Ça ressemble à un carnaval et à un charivari.
Oui, alors si vous voulez, c'est un charivari. Il y a les deux aspects, c'est-à-dire que cet aspect de grand défoulement qui permet enfin d'aller se balader, c'est ajouté une espèce de terrible inconscience dans la persécution des gens. Et là, on a des gens, vous savez, les gardes rouges, on les reconnaissait, ils avaient toujours une ceinture, un ceinturon militaire. Ils s'habillaient en militaire parce que c'était ce qu'il y avait de mieux vu. Et ils frappaient les gens, ils leur faisaient faire l'avion, c'est-à-dire se plier en deux avec les bras en arrière, en leur baissant la tête, parce qu'il faut ditorenzer, c'est-à-dire baisser la tête et reconnaître ses crimes. Et là, on a vu des gens qui étaient assassinés vraiment en public pendant ces grandes réunions de critiques. Donc c'est des gens qui, pour faire triompher la pensée de Mao Tse-Tung, qui d'un côté s'amusent avec leurs petits copains, et puis de l'autre commettent des exactions absolument terribles.
Un charivari sans fin, sans limite, et qui dure très très longtemps, qui aboutit aussi à des affrontements entre les organisations de gardes rouges, si bien qu'en 1967, le président Mao va changer de cap et demander à l'armée, commandée par son ami Lin Biao, de rétablir l'ordre. Et là, ça va être très très violent. Dissolution, mais liquidation d'organisations de gardes rouges. Il y aura plus de morts pendant cette période que pendant la révolution culturelle stricto sensu.
Oui, bien sûr. Alors, 67, il y a encore des groupes de gardes rouges et un certain nombre de groupes de gardes rouges commencent à réfléchir sur le système et ne se contentent pas d'obéir aux ordres du groupe central chargé de la révolution culturelle. Ils commencent à se dire que pourquoi est-ce qu'on tape sur certains cadres et pas sur d'autres? Et ils commencent à réfléchir sur le rôle même des cadres et le rôle de la dictature du Parti communiste. C'est par exemple Yang Xiguang qui écrit un texte qui s'appelle « Où va la Chine ?» et qui est véritablement très critique sur le système. C'est là que Mao s'inquiète et envoie l'armée. Alors effectivement, d'un côté, il va y avoir la répression des gardes rouges. Alors ça dépend vraiment des endroits. Au Guangxi, par exemple, dans le sud-ouest de la Chine, il y a des dizaines de milliers de morts parmi les gardes rouges qui sont véritablement fusillés par l'armée. Mais d'un autre côté, il va y avoir aussi dans les campagnes, on va en profiter pour avoir une chasse aux ennemis de classe. Et on a dans des districts proches de Pékin, des milliers de morts, dans un district du Hunan encore, des milliers de morts par les cadres locaux qui vont mobiliser l'ensemble des paysans rouges pour tuer les gens des catégories noires. Donc, on a véritablement ce grand désordre. C'est pas un désordre tout à fait complètement sans contrôle. Ce sont quand même la plupart du temps soit l'armée, soit les cadres paysans qui se débarrassent, alors bien sûr des ennemis de classe, mais aussi simplement des gens dont ils étaient jaloux. Quand on avait une jolie femme, par exemple, on pouvait très bien vous trouver ennemi de classe. Et puis prendre
les comités révolutionnaires sont tenus par l'armée dorénavant, et les cadres paysans sont susceptibles de représenter suffisamment l'ordre pour qu'on envoie chez eux, qu'on confie à leurs soins les gardes rouges destitués, et ensuite, génération après génération, parce que ça va durer jusqu'en 78, après la mort de Mao, les jeunes instruits. Les jeunes instruits à la campagne, vous rappelez leur nom ?
Jeting.
Ouais. Allez, je vous propose encore deux témoignages, toujours symétriques ou opposés. Le premier recueilli par Jacqueline Dubois, qui tenait la chaire de maologie à la télévision française, et puis le second par Patrick Penaud et Philippe Alfonsi.
Avec mes élèves et d'autres professeurs, nous sommes allés à la campagne pour nous faire rééduquer. J'ai vu de mes propres yeux combien les paysans travaillaient dur. Et pourtant, ils se contentaient de si peu, tandis que nous, les intellectuels, nous vivions 10 fois mieux qu'eux. Alors je me suis demandé combien de paysans et d'ouvriers devaient se priver pour permettre à une intellectuelle comme moi de se spécialiser dans une certaine branche de science. J'ai réfléchi, j'ai beaucoup réfléchi à cette question et puis j'ai compris bien des choses. À partir de ce moment-là, j'ai pris la résolution de mettre mes connaissances au service des travailleurs.
Président Mao, nous marcherons fermement sur le chemin que vous nous avez montré. Nous allons dans les zones rurales pour être rééduqués par les paysans pauvres. Nous plongerons dans la boue et tempérons nos cœurs loyaux pour les rendre de plus en plus rouges.
Mao nous a envoyés à la campagne pour travailler avec les paysans. Nous y sommes restés 7 ans. C'est là que j'ai découvert la misère des paysans chinois. C'est à cette époque que j'ai compris que les réformes préconisées par Mao pendant la révolution culturelle étaient irréalisables.
17 millions de jeunes concernés qui vont prendre connaissance, malgré l'ennui et les difficultés de leur situation, de la réalité chinoise.
Absolument, une leçon de choses absolument extraordinaire, puisque en arrivant, ils vont se rendre compte que la réalité ne correspond pas du tout à ce qu'ils avaient après, à ce pourquoi ils s'étaient battus, pourquoi ils avaient parfois tué leurs amis pour la pensée du président Mao. Parce que de quoi se rendent-ils compte? Les paysans leur disent que le bon moment, c'était, c'était avant la libération. Très souvent, ils l'entendent. La catastrophe, c'était le grand bond en avant. Et la chose dont ils ne voulaient absolument pas, c'était le collectivisme. Les paysans ne faisaient que travailler leur lopin de terre et paraissaient dans les grands champs collectifs. Alors, à partir de ce moment-là, certains vont dire, les paysans sont des contre-révolutionnaires et il faut les changer. Et un certain nombre de Jeting, justement, vont être chargés de la propagande. Et puis, d'autre part, d'autres vont dire, écoutez, justement, il faut changer nos idées.
Et alors, comment ça se passe concrètement entre les paysans et eux? Certainement pas à la façon que décrit Jacqueline Dubois, mais c'est d'autant plus malaisé à comprendre que c'était les paysans ou les cadres paysans qui étaient chargés d'évaluer.
Alors voilà,
les jeunes instruits qui cherchaient à rentrer chez eux.
Oui, bien sûr. Dans une large mesure, les jeunes instruits vont penser qu'il y a une chose, c'est à rentrer chez eux. Hein. Mais pour ça, il faut être bien évalué par les chefs. Non pas par les paysans pauvres et moyens pauvres, comme on dit, mais par leurs représentants, c'est-à-dire les cadres du parti. Vous pouvez imaginer que tout le monde se met à yendio, c'est-à-dire offrir des... ça veut dire réfléchir. On dit, on va réfléchir à votre retour. Ça veut dire qu'il faut donner yen, c'est des cigarettes, et dio, de l'alcool, pour essayer d'y arriver. Et puis les jeunes filles, elles donnent autre chose que de l'alcool et des cigarettes pour pouvoir rentrer dans les villes.
Alors, si vous faire une histoire sexuelle de la révolution culturelle. À votre exemple.
C'est quelque chose qui est effectivement très 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 important. Et donc il y a les jeunes instruits se rendent compte que les paysans sont pas du tout contents qu'ils viennent parce qu'ils leur enlèvent des ressources, ils savent pas véritablement cultiver la terre et donc alors simplement dans certains cas, vous avez vu Balzac et la petite tailleuse chinoise, il y a un certain nombre de jeunes paysans ou de jeunes paysannes qui vont profiter de la présence de ces jeunes instruits pour essayer de pour connaître un peu les modes des villes, hein, parce que c'est quand même des gens qui viennent des villes dans l'ensemble. Et puis pour eux, ils vont aussi chercher à lire et discuter.
Avoir 20 ans pendant l'époque de la Révolution culturelle, avoir 40 ans dans les années 70 ou 80, qu'est-ce qu'ils sont devenus ces anciens gardes rouges ou ces anciens jeunes instruits? Vous en retrouvez dans les mouvements démocratiques?
Ah ben, on en trouve énormément dans les mouvements démocratiques, hein. La plupart d'ailleurs des démocrates de la fin des années 70, du mur de la démocratie, sont des anciens jeunes instruits. Et puis il y en a un quand même qui est relativement connu, c'est Liu Xiaobo, le prix Nobel de la paix, qui est devenu l'un des principaux penseurs du mouvement pour la démocratie en Chine. Ben, Liu Xiaobo a été jeune instruit dans le nord-est de la Chine.
Mais il y en a un autre quand même qui préside au contrôle de la mémoire du pays aussi, c'est l'actuel président.
Et ben voilà, Xi Jinping a été envoyé lui aussi dans un village au fin fond du Shaanxi, nord-ouest de la Chine, et puis il est rentré trois fois à Pékin, parce qu'il ne supportait pas les conditions de vie dans ce village. Et puis après, on ne sait pas ce qui s'est passé, parce qu'il ne nous en a pas parlé, il a changé d'avis, et il a fait 10 fois sa demande d'adhésion au parti.
Laissez l'histoire à l'histoire, Jean-Philippe Béja, c'est le slogan du quotidien du peuple pour le 50e anniversaire de la Révolution culturelle. L'émission était préparée par Franck Oliva, réalisée par Jacques Sigal, avec à la technique, lui souhaitons un bon retour à Paris, David Federman. Au Vieux Colombier, lundi 30 à 20h, nous restituons de grandes journées parlementaires, le printemps 89, comment les États généraux sont-ils devenus l'Assemblée nationale, avec des comédiens de la Comédie française, entrée libre sur réservation au 01 44 58 15 15. 44, 58, 15, 15. À votre programme, cher Mathieu Vidard.
La langue des signes, Jean, dans la tête au carré, les langues des signes, d'ailleurs, devrais-je dire.
La LSF, est-ce qu'elle est comparable à l'ASL? Vous nous expliquerez tout à l'heure ce que c'est. C'est la langue des signes chinoise, paraît-il, Jean-Philippe Béchard.